Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, très heureux de vous retrouver. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la gestion des autorités de la transition au Burkina Faso durant les 13 mois qui ont suivi la chute du président Blaise Compaoré. Un audit a été rendu public il y a quelques jours et il révèle de multiples irrégularités. Par exemple, des marchés publics ont été attribués sans appel d'offres. De nombreuses dépenses ont été réalisées sans fournir la moindre pièce justificative et des terrains ont même été vendus à des membres du gouvernement à un prix particulièrement bas dans un quartier chic de la capitale. Du coup, ce rapport évoque des risques élevés de collusion, de corruption et d'enrichissement illicite. Alors, êtes-vous surpris par les conclusions de cette audit ? Le gouvernement de la transition va-t-il devoir s'expliquer, rendre des comptes aux Burkinabés ? Vos réactions, évidemment, nous intéressent. Vous continuez à nous appeler ici à Paris, 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur les réseaux sociaux. Beaucoup de réactions et de commentaires sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter le débat. Mais d'abord, comme tous les matins, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va s'intéresser d'abord au Gabon et la perspective de l'élection présidentielle prévue dans maintenant 4 mois. Bonjour Samson.
Bonjour Monsieur Wang.
Vous nous appelez de Moabi, c'est au sud du Gabon. Nous vous écoutons.
Tout à fait. Après avoir démissionné de l'Assemblée nationale, M. Dindou Bandama se porte candidat à la présidentielle d'août 2016 contre Ali Bongo Ondimba, qu'il a longtemps soutenu. Comment expliquer ce désaccord ? La scission du PDG au pouvoir profitera-t-elle à l'opposition ?
Alors, bonne question, effectivement. Ginzouba Dama, qui présidait l'Assemblée nationale au Gabon depuis 19 ans, a démissionné du perchoir et il a, pour l'occasion, claqué la porte du parti au pouvoir, le PDG. Bonjour Christophe Bovouvier.
Oui, bonjour Juan, bonjour Samson.
Merci d'être avec nous, Christophe. Vous avez eu l'occasion récemment d'interviewer Ginzouba Dama, qui a quand même passé 40 ans à servir le régime en place. D'abord le père Bongo, ensuite le fils Bongo. Comment expliquer cette rupture ?
Ce que dit l'intéressé, c'est que le président Ali Bongo n'a pas tenu les promesses du candidat Ali Bongo. Il n'y a pas de route bitumée entre toutes les provinces et la capitale. Il n'y a pas autant d'hôpitaux que prévu. Il n'y a guère que le CHU d'Agondje qui a été construit à Libreville depuis sept ans. Ginzouba Dama tire aussi à boulet rouge sur les proches du président. Il les accuse, je cite, de mépriser les faibles et les moins nantis par une exhibition indécente des signes extérieurs des richesses et de pratiquer des transferts immenses de capitaux vers d'autres pays qu'il semble aimer plus que le Gabon, qu'il considère comme une simple vache laitière. C'est méchant, hein ?
Oui.
Le fond du problème, c'est que Ginzouba Dama fait partie des anciens proches de feu Omar Bongo, qui ne sont plus dans le premier cercle de l'actuel président Ali Bongo et qui ont été écartés au profit de conseillers comme le conseiller d'origine béninoise Meksan Akrombessi. La colère est d'autant plus forte que Ginzouba Dama est l'un des deux piliers du parti au pouvoir PDG qui ont aidé le candidat Ali Bongo à s'imposer. C'était en juillet-août 2009 face au candidat André Baobab dans un bras de fer très dur qui a suivi juste le décès d'Omar Bongo. Côté pouvoir, on répond que cette défection n'est pas crédible car Ginzouba Dama a soutenu le président Ali Bongo pendant plus de 6 ans avant de se raviser.
Effectivement. En tout cas, aujourd'hui, il se ravise. Il compare d'ailleurs le président Ali Bongo à ce pilote allemand qui s'était suicidé il y a un an avec 149 passagers à bord de son avion. Il dit que vu le bilan négatif du président Bongo, ce dernier persiste à dire que tout va bien dans le pays, d'où cette comparaison au pilote allemand suicidé il y a un an. On est en pleine scission en ce moment, Christophe Bovouvier, au sein du PDG, du parti au pouvoir. Est-ce que cette scission va profiter à l'opposition en vue de la présidentielle ?
À première vue, oui, car Ginzouba Dama, c'était le numéro 3 du régime en tant que président de l'Assemblée. Et puis, il n'est pas parti tout seul. Il a fait scission avec 12 autres députés du PDG, comme Alexandre Barrot-Chambrier, qui est l'une des personnalités les plus respectées du Gabon. Tout cela, d'ailleurs, devrait conduire à 12 législatives partielles, 13 même, si on compte Nzoubandaba, dans les toutes prochaines semaines, ce qui va électriser la campagne de la présidentielle du mois d'août. 13 députés sur quelques 115 députés PDG, ce n'est pas négligeable. Et quelques jours après cette démission collective, le président Ali Bongo a réuni les quelques 100 députés qui lui sont restés fidèles afin justement de s'assurer de leur soutien. Cette dissidence affaiblit aussi le président dans la mesure où elle repose la question de la régularité de la présidentielle d'août 2009 qu'il a officiellement gagnée, mais dont beaucoup d'observateurs contestent justement cette régularité. Vous vous souvenez, en avril 2012, le candidat français François Hollande avait jugé que cette élection n'était pas démocratique. Tout récemment encore, dans une émission de télévision en France, le Premier ministre français, Manuel Valls, avait dit que, à ses yeux, Ali Bongo n'avait pas été élu de façon démocratique. Aujourd'hui, Nzoubandaba reconnaît à demi-mot que cette élection a été truquée. Donc cette démission collective de quelques barons importants du PDG entame la légitimité du président Ali Bongo. Mais d'un autre côté, il est fort possible que le président actuel se frotte les mains. Pourquoi ? Bien, parce qu'au Gabon, il n'y a qu'un seul tour. Donc, le calcul est simple. Plus il y aura de candidats de l'opposition, eh bien, plus le candidat Ali Bongo aura des chances d'arriver premier. Or, aujourd'hui, il y a un véritable émiettement politique. Outre Nzoubandaba, qui donc vient d'annoncer sa candidature, il va y avoir Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Il va y avoir Raymond Dongsima, un ancien premier ministre d'Ali Bongo qui lui aussi fait défection. Il va y avoir Pierre Claver Maganga Moussavou, Jean de Dieu Moukani Iwangou, et puis certainement un candidat de l'Union nationale, cette formation politique créée par feu André Baobab, et dont Casimir Oyemba, soit Zakiri Miboto devraient défendre les couleurs. Donc, la grande question à présent, c'est de savoir si tous ces candidats de l'opposition vont pouvoir surmonter leur ego pour se mettre d'accord sur une candidature commune.
On verra ça. En tout cas, les prochaines semaines s'annoncent évidemment passionnantes. La situation politique au Gabon, on pourra en parler, si vous le souhaitez, vendredi dans la Libre Antenne, puisque le vendredi, vous le savez, vous commentez l'actualité de votre choix. Il est 10h17 ici à Paris. Tiens, on va continuer à parler du Gabon, mais on va s'intéresser cette fois-ci au pétrole gabonais. Jean, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Pointe-Noire au Gabon, au Congo, pardon. Oui. On vous écoute.
Il semblerait que le Gabon veut réintégrer le PEP.
Oui.
Pourquoi ce pays a quitté le PEP en 1995 et vouloir le réintégrer maintenant ? Quel est l'intérêt pour le Gabon ?
Alors c'est vrai que le Gabon avait rejoint le PEP en 1975. 20 ans plus tard, le pays a décidé de quitter l'organisation. Et aujourd'hui, eh bien, le Gabon voudrait bien réintégrer l'organisation des pays producteurs de pétrole. Bonjour Claire Fage.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre, vous présenter la chronique des matières premières tous les jours sur l'antenne d'RFI. Pourquoi le Gabon, déjà, avait-il quitté l'OPEP il y a 21 ans maintenant ?
Eh bien, pour des raisons financières, parce que ça coûte cher d'appartenir à l'OPEP. Il y a des droits d'entrée annuels à payer. Et effectivement, quand le Gabon était entré en 1975, c'était une période faste. Les prix du pétrole avaient bondi, on se rappelle. Hein, c'était après l'embargo des pays arabes, il y avait ce regain de nationalisme pétrolier, l'OPEP était puissante, donc elle avait une prise sur les cours du brut, donc les pays avaient envie d'y entrer, le Gabon avait des rentrées financières, même avec une petite production. Hein. Donc,
c'était d'ailleurs le plus petit pays producteur de pétrole au sein de l'OPEP.
Aujourd'hui, c'est un demi-million de barils par jour, donc c'est effectivement une petite production, mais ça rapportait, et c'était un club en majorité de pays musulmans, donc on se rappelle il y avait eu la conversion du président Bongo, hein, qui s'était donc fait appeler Omar. Et en 1995, eh bien, c'est 20 ans plus tard, on est au contraire dans une période de prix très déprimée. Et la production gabonaise, qui était donc déjà faible, stagne. Donc le Gabon trouve que ce qu'on lui demande est un peu exorbitant. Il exige que l'OPEP revoie sa contribution à la baisse. Refus de l'OPEP et donc les liens sont rompus. Le Gabon quitte l'OPEP.
Et claque la porte de l'organisation des pays producteurs, exportateurs de pétrole. Alors aujourd'hui, vous le disiez Claire, le Gabon c'est une production de 500 000 barils par jour. Pourquoi vouloir réintégrer l'OPEP alors que l'organisation semble avoir perdu totalement son influence sur les prix. Les cours du baril chutent depuis 2 ans.
Oui, c'est un vrai paradoxe. On se dit, mais pourquoi le Gabon veut rentrer à nouveau alors que l'OPEP, c'est une espèce de carcan qui a des droits d'entrée quand même importants, que l'OPEP semble impuissante à soutenir le marché. Mais c'est quand même, ça reste une organisation prestigieuse. Hein. C'est le standing de l'OPEP. On retourne dans le club des grands alors que, bah, effectivement, le Gabon a peut-être besoin de ce soutien étant donné que sa production non seulement stagne, mais qu'elle décline. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça entre dans un contexte bien particulier pour le Gabon qui, justement, pour relancer sa production, est en train d'attribuer des nouvelles licences offshore, en mer. Et donc, vis-à-vis des entreprises candidates, eh bien, ça peut avoir une espèce d'influence. Voilà, le Gabon, je fais à nouveau partie de l'OPEP. Et cette sélection des entreprises est en cours. Normalement, elle devrait être annoncée d'ailleurs vendredi prochain. Après cette étape, il y aura une négociation en mai et en juin avec les compagnies. Donc, c'est une façon peut-être de montrer pour le Gabon, de montrer ses muscles. Et d'ici là, il y aura eu la réunion à Vienne de l'OPEP qui décidera ou non de réintégrer l'OPEP. Oui. Et le Gabon. Et le Gabon deviendra à ce moment-là le 14e membre de l'OPEP parce que le 13e, ça a été l'Indonésie qui a été réintégrée. Il y a eu un précédent.
Effectivement.
On peut pas comparer l'Indonésie et le Gabon parce que l'Indonésie, c'est un grand pays gazier. Elle était devenue importatrice nette de pétrole en 2008, c'est pour ça qu'elle avait quitté l'organisation. Mais elle est très intéressante, c'est le seul membre asiatique de l'OPEP et pour des grands pays exportateurs de pétrole, c'est important hein, pour les pays du Golfe. Le Gabon, bon, c'est un petit acteur, il serait derrière l'Équateur et la Libye qui a bien baissé en production, mais ça peut lui permettre d'avoir une espèce d'argument supplémentaire face aux compagnies.
En tout cas, c'est dans les prochaines semaines hein, que le sort du Gabon sera donc discuté en Autriche, à Vienne, où se trouve le siège de l'OPEP. Merci beaucoup, Claire Fage, d'être venue répondre à Jean qui nous appelait de Pointe-Noire. 33-9 693-693-70. Ce sont vos questions que vous nous posez tous les matins sur l'antenne d'RFI. La rédaction, évidemment, se fait un plaisir de vous répondre. Julien Chavanne du Service France nous a rejoint à l'instant. Bonjour Julien.
Ah, bonjour.
Des questions concernant l'état d'urgence en France. Nous accueillons Mathias. Bienvenue Mathias.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Oui, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé le prolongement de l'état d'urgence pour les événements sportifs que sont l'Euro et le Tour de France. J'aimerais déjà savoir pourquoi prolonger l'état d'urgence maintenant alors que ces événements sont prévus depuis longtemps, et aussi de savoir si le Parlement va s'y opposer.
Alors, rappelons que la semaine dernière, Manuel Valls a effectivement annoncé que le gouvernement souhaitait prolonger de 2 mois l'état d'urgence qui est instauré hein, depuis le soir des attentats du 13 novembre à Paris. 2 mois de plus, ça nous emmène donc jusqu'au 26 juillet, le temps donc de l'Euro de football, du Tour de France. C'est la 3e fois que l'état d'urgence sera prorogé. On peut peut-être déjà rappeler, avant de répondre à Mathias, en quoi consiste l'état d'urgence en France?
Eh bien, c'est un régime d'exception. Il est instauré en cas de situation très grave, de danger pour le pays, comme la menace terroriste, bien sûr, mais aussi lors de grandes catastrophes naturelles. Avant les attentats du 13 novembre, la dernière fois que cet état d'urgence avait été décidé, c'était lors des émeutes dans les banlieues en 2005. Alors, concrètement, l'état d'urgence permet de renforcer les pouvoirs de la police, de la justice et de restreindre certaines libertés. Et les autorités ont ainsi le pouvoir de mettre en place des couvre-feux, d'interdire les manifestations dans la rue, de prononcer des assignations résidence ou encore de faciliter les perquisitions à domicile.
Et au 15 avril, l'état d'urgence avait permis 3549 perquisitions administratives et 70 assignations à résidence. Revenons à la question de Mathias, pourquoi proposer maintenant de prolonger l'état d'urgence alors que l'Euro de football et le Tour de France figurent dans les agendas sportifs depuis plusieurs années maintenant?
C'est exactement la question que se pose l'opposition en France. Pourquoi avoir décidé en février de le prolongé de seulement 3 mois, sans penser à l'euro. Éric Ciotti, député du Parti Les Républicains, dénonce l'amateurisme de l'exécutif. En réalité, l'Élysée semble avancer pas à pas. François Hollande lui-même n'a apparemment pas prévu de maintenir l'état d'urgence aussi longtemps. En janvier dernier, il avait confié que conserver l'état d'urgence pendant l'euro ne serait pas forcément un bon message. Mais aujourd'hui, le président ne veut pas prendre le risque de lever cet état d'urgence et de se retrouver accusé de laxisme s'il y a un nouvel attentat. Pour autant, beaucoup à droite, comme Alain Juppé, estiment que la situation impose bel et bien une prolongation de l'état d'urgence, mais qu'il faut savoir tout de même mettre un terme à cet état d'exception. Le gouvernement l'assure, il veut en sortir, mais pas sans avoir d'abord renforcé la loi face aux nouvelles menaces terroristes. Au départ, vous vous en souvenez, François Hollande voulait que l'état d'urgence soit inscrit dans la Constitution. C'était l'article 1 de ce projet de révision constitutionnelle. Mais le débat autour de l'article 2, celui sur la déchéance de nationalité, a tout fait capoter. L'exécutif compte désormais sur le projet de réforme pénale. Il est toujours discuté au Parlement. En attendant cette nouvelle prolongation, l'état d'urgence fait toujours grincer des dents chez les Verts et à la gauche de la gauche. Et l'écologiste Noël Mamère et l'ex-socialiste Pourri Amir Chahine n'y voient qu'un moyen de faire perdurer un état général de peur collective.
En tout cas, la suite va se jouer au Parlement où les députés et les sénateurs devraient sans surprise voter cette prolongation.
Oui, l'opposition râle mais devrait la voter, comme elle l'a déjà fait par deux fois depuis le 13 novembre. La droite, en réalité, ne peut pas se permettre de ne pas voter une mesure censée renforcer la sécurité des Français. La majorité, elle devrait suivre. Elle le vote pour le prolongement de cet état d'urgence après le 26 mai aura donc lieu dans les prochaines semaines.
À suivre donc. Merci Julien Chavanne. Mathias, on a répondu à vos questions ?
Oui, je crois bien, Julien.
Bon, on remercie Julien Chavanne, évidemment, et à vous, Mathias, on vous souhaite une bonne journée à Abidjan. On termine cette première partie avec Philippe, qui nous appelle de Lomé, au Togo. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Gomez.
Bienvenue sur notre antenne. Vous avez des questions concernant les récents tremblements de terre au Japon et en Équateur.
Oui, merci. Bien sûr. L'Équateur a été frappé par un terrible tremblement de terre quelques heures après le Japon. Alors, ces deux tremblements de terre sont-ils liés? Sinon, comment peut-on comprendre le rapprochement de ces deux tremblements de terre?
Alors, le réseau téléphone n'est pas très bon. Vous vouliez comprendre si ces deux tremblements de terre étaient liés? C'est une question qu'on a reçue plusieurs fois au standard et on comprend que vous puissiez vous la poser. Yann Kingler est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct. Vous êtes tectonicien à l'Institut de physique du globe à Paris. Alors, je rappelle qu'il y a 10 jours, la Terre a tremblé à quelques heures d'intervalle au Japon, puis en Équateur. Y a-t-il un lien entre ces deux séismes ?
En fait, non. A priori, il n'y a pas de lien spécifique, à part la concomitance temporelle. Ces deux séismes sont éloignés de plusieurs milliers de kilomètres. Et en fait, sont le reflet de l'activité sismique permanente que l'on peut observer tout autour du Pacifique.
Donc c'est une pure coïncidence.
A priori, avec le savoir que l'on a actuellement, oui, ça apparaît comme une pure coïncidence.
Ouais. Ce qu'on souligne tout de même, c'est que ces séismes surviennent autour de ce qu'on appelle la plaque pacifique.
Oui, absolument. Il y a une activité permanente et assez intense sismologiquement autour du Pacifique. Ça, c'est quelque chose qui est documenté et on connaît. Globalement, il y a 7 à 8 séismes, une vingtaine de séismes de magnitude 7 autour du Pacifique chaque année. Alors, on n'en parle pas toujours parce qu'ils ne sont pas forcément des victimes, mais c'est quelque chose qui est connu et qui est dans la statistique normale des séismes.
Ouais. Autre question qu'on a beaucoup reçue après ces deux tremblements de terre, Philippe.
Oui.
On vous écoute.
Ok. La seconde question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut prévoir les tremblements de terre?
Alors, question basique, Yann Kingler, la réponse est non. On ne peut pas prévoir un tremblement de terre.
Non, a priori, on ne peut pas prévoir les tremblements de terre. Aujourd'hui, on ne connaît pas de signe précurseur qui serait fiable à 100% et qui nous dirait là, il va y avoir un tremblement de terre à tel moment, à tel endroit. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est aujourd'hui, on sait d'abord identifier les sites où on peut avoir des séismes, donc ce qu'on appelle les failles. Donc ça, c'est très important parce que ça permet de délimiter des zones à risque et des zones avec moins de risque. Ce qu'on fait aussi, c'est s'intéresser, par exemple, à l'occurrence des séismes passés en faisant des modèles, en se disant est-ce que les séismes se reproduisent de façon plus ou moins régulière, par exemple, et quand se sont produits des séismes passés. Donc ça nous donne des idées sur la fréquence des séismes, sur les structures tectoniques.
Mais impossible de prévoir un séisme, incapable aujourd'hui d'annoncer la date, l'heure, la magnitude d'un séisme. Merci beaucoup Yann Kingler d'avoir été avec nous de l'Institut de physique du Globe de Paris. D'autres questions à la rédaction demain. D'ici là, évidemment, vous continuez à nous appeler. Le standard reste ouvert. Et on vous attend d'ailleurs au standard. On va parler de l'opération Main Propre lancée au Burkina Faso. Et on va faire le point ensemble sur la gestion du gouvernement de transition mis en place après la chute de Blaise Compaoré.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé.